Vous écoutez Libre Propos sur Radio Grand Ciel avec Karine Delamer. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Ciel. Nous terminons notre série politique avec Didier Gougis, responsable de la formation continue du diocèse de Chartres. Bonjour Didier.
Bonjour Karine.
Donc je rappelle à nos auditeurs que depuis quelques semaines maintenant, nous relisons ensemble la lettre des évêques de France dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Vous vous doutez bien, chers auditeurs, que c'est un sujet extrêmement d'actualité. Nous allons terminer le chapitre 9 et le chapitre 10. Le 9 va parler de la laïcité et le 10 de tous les possibles qui concernent notre pays. Donc Didier, je vous laisse nous parler de ce chapitre sur la laïcité.
Voilà, donc il s'intitule « Pour une juste compréhension de la laïcité ». Parce que effectivement, le premier constat que font les évêques, c'est qu'il est difficile de parler paisiblement de religion dans notre société française. Et même, disent-ils, certains ont du mal à considérer que le religieux est quelque chose de positif à apporter à la vie en société. Alors, évidemment, ils prennent un petit peu le contre-pied de ça, mais d'abord, ils disent qu'il y a différentes conceptions de la laïcité dans notre pays, essentiellement deux conceptions de la laïcité qui s'affrontent. Alors il y a d'abord une conception qui est le sens de... D'abord, ils font référence au sens de, originel de cette laïcité, qui est en fait la séparation. C'est la séparation. L'Église ne commande pas l'État, l'État ne commande pas l'Église. Donc c'est la séparation des domaines. Et puis aussi dans la sphère qui est strictement publique, comme l'école publique, etc., là, on ne prend pas position pour telle ou telle religion, on ne manifeste pas ses préférences, mais on respecte la diversité d'opinion.
Donc ça, c'est l'esprit de la loi 1901.
Voilà, exactement, 1905.
Pardon.
1901, c'est l'association. Alors, c'est devenu, au fil des années, et particulièrement ces temps-ci, un lieu de tension, disent-ils, qui est lié, bien entendu, à l'affirmation de l'islam en France, puisque du coup, ça change la donne. Alors que en 1905, la religion catholique et un peu les protestants, mais en très grande minorité, c'était la religion en France, et donc cette loi a été conçue en dialogue ou en opposition avec l'Église catholique. Maintenant, la donne est très différente parce qu'il y a l'islam qui a pris une importance plus importante, mais aussi d'autres religions et aussi d'autres opinions non religieuses, c'est-à-dire l'athéisme ou l'absence de religion, d'autres opinions. Bien. Alors donc, du coup, c'est un lieu de tension qui s'est développé autour de cette question de la laïcité et donc un débat. Moi, j'hésite à appeler le mot débat. Eux, ils utilisent ce mot, mais c'est plutôt une confrontation. Moi, je vois ça entre les tenants d'une laïcité étroite, c'est-à-dire alors les religions sont les ennemis de la République, il faut bannir toute religion dans l'espace public, etc. Et puis les tenants d'une laïcité qu'on pourrait appeler ouverte, qu'ils appellent ouverte en tout cas, et qui pensent que la République, au contraire, et c'est la garante de la place des religions et de l'expression des convictions différentes dans l'espace public, et que c'est le rôle de l'État de faire en sorte que chacun puisse pratiquer, penser et croire ce qu'il souhaite et en débattre avec les autres. Ce que je lis, par exemple, à la page 63, « La laïcité de l'État est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toute religion et non-croyants, de vivre ensemble. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette conception de la laïcité qu'ils défendent. Et il ne s'agit pas de faire de la laïcité un projet de société qui veut une neutralisation religieuse, comme il dit, mais au contraire, cette volonté de développer un vivre ensemble. Et puis aussi, l'autre risque qu'ils voient, que les évêques voient dans cette laïcité militante, ce serait de rejeter la religion dans l'espace privé, ou le religieux dans l'espace privé, dans la sphère privée. Et ils disent que c'est néfaste pour la société. C'est une conception néfaste parce que, du coup, ça empêche le dialogue, ça empêche cet enrichissement mutuel qui est justement fait de différence. Alors, il demande simplement qu'on reprenne paisiblement ce débat en évitant de stériles instrumentalisations politiques. Je pense que c'est vraiment le moment de redire ça, oui, parce qu'on se trouve entre les deux tours d'élection présidentielle, et il est probable que cette question de la laïcité va venir très fort dans l'échange entre les deux candidats qui restent en présence, parce qu'on voit bien que leurs conceptions de la laïcité ne sont pas les mêmes.
Donc on peut dire que nous sommes vraiment dans l'actualité. Nos évêques avaient donc bien vu les points sensibles et saillants de notre société. Est-ce qu'ils ont une vision sur l'avenir, sur
ce... Mais alors c'est le chapitre 10 donc, qui conclut leur petit document. Ils appellent ça « un pays en attente, riche de tant de possibles ». Alors, la première chose qu'il dit, c'est que il ne faut pas penser que le désamour pour le personnel politique, ils emploient ce mot désamour. Bon, c'est vrai qu'on constate ça, ce désamour, mais ce n'est pas un désintérêt pour les enjeux de la vie en société de la part des Français. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans la participation au scrutin. Pratiquement 80% des Français sont allés voter pour exprimer leur... Donc c'est pas un désintérêt pour les enjeux, mais c'est simplement un désamour, un espèce de divorce avec le personnel politique tel qu'il a été jusqu'ici. Alors, ils disent, mais de toute façon, il ne faut pas compter sur une personnalité providentielle. C'est pas comme ça qu'on va changer notre société, qu'on va la faire évoluer, mais c'est le travail et la responsabilité de tous, de chaque citoyen. Et donc, ils appellent un peu à un changement d'attitude et de mode de pensée par rapport à ça. N'attendons pas que tout vienne d'un personnage qui va nous tomber du ciel et qui va d'une baguette magique régler tous les problèmes.
Dans un pays très centralisé, c'est vrai que c'est tentant.
Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment chacun qui doit s'y mettre. Et donc, ils font cette constatation. Notre pays est généreux, mais il est en attente. Et pour expliciter un petit peu ce qu'ils disent dans ce généreux, ils disent par exemple, c'est l'un des pays européens où la vie associative est la plus développée. La vie associative en France est très 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 vivante. Partout fleurissent des initiatives citoyennes, disent-ils, des désirs de parole, qu'il s'agisse par exemple des veilleurs, des cercles du silence, du phénomène des nuits debout, etc. Donc il y a ce désir, et non seulement ce désir, mais cette mise en œuvre, cette mise à l'action, à travers beaucoup d'initiatives. Il parle par exemple de l'association Coexister, qui a été l'initiative de jeunes, qui travaille avec énergie pour empêcher les oppositions au blocage culturel, qui croient que la rencontre est non seulement possible mais féconde pour notre vie en société. Il parle aussi des enjeux écologiques. Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de transformer en profondeur nos conceptions de la vie en société. Et là, c'est certainement un des enjeux très importants qui a été un peu absent dans la campagne des élections présidentielles, malheureusement.
Oui, il y a eu beaucoup de choses absentes.
Alors que c'est une des questions certainement clés pour notre avenir, non seulement l'avenir de la société française, mais l'avenir de la planète elle-même. Et comme l'a rappelé le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si, et qui fait le lien entre la crise sociale, la crise écologique et la crise spirituelle. C'est vraiment ça l'originalité du propos du pape François dans ce document. Voilà, alors le dernier paragraphe, je vais vous lire le dernier paragraphe de ce chapitre 10. Les nouvelles questions d'aujourd'hui nous obligent à réfléchir et agir. Elles peuvent se révéler une chance pour nous dire quelle société nous voulons. Sur tous ces sujets, il nous faut à tous les niveaux que nous reprenions le temps de la parole et de l'écoute pour éviter que le dernier mot ne reste à la violence. Voilà, le temps de la parole et de l'écoute. Ça, c'est le dernier paragraphe du chapitre 10. Mais après, il y a une conclusion. Et dans leur conclusion, ils disent trois choses. Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd'hui. Il y a de la tristesse. Je pense qu'on peut le dire aussi encore. C'était écrit il y a déjà quelques mois, mais c'est toujours vrai. Et puis, il y a aussi le risque de ne plus voir notre société que négativement. On a toujours cette tendance à avoir le regard négatif. Non, ils nous disent changeons de lunettes en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup de richesses cachées dans les cœurs et de l'espoir qui vient de l'action de beaucoup de choses, comme on vient de le dire. Et puis, bien sûr, pour nous chrétiens, disent-ils, il y a l'invincible espérance que nous donne le Christ d'une lumière qui l'emporte sur toutes les obscurités. Donc, je pense que c'est ça aussi le rôle que les chrétiens peuvent jouer dans la société, c'est de maintenir cette espérance. Alors il y a cette petite citation que je voudrais faire avant la dernière. Chacun à son niveau est responsable de la vie et de l'avenir de notre société. Cela demandera toujours courage et audace, des qualités qui n'ont jamais déserté le cœur de notre pays. Courage et audace.
Voilà. Alors justement, dans cette démarche de courage et audace, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. À la fin, il nous propose des questions à faire en groupe pour y réfléchir ensemble.
Oui, alors c'est après la conclusion. De fait, il y a des pistes autour de chaque chapitre, des petites pistes de réflexion pour en petite équipe ou en couple, en famille, n'importe quand, n'importe où, pour réfléchir à partir de ça. Et bien sûr, ça va être sans doute favorable aussi toute cette période-là. D'abord, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle et puis les élections législatives qui vont suivre, hein, qui sont toutes proches. Je lis simplement la conclusion de la conclusion, hein, c'est-à-dire en fait les deux dernières phrases de leur lettre. Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque ne viendront pas d'abord de l'économie et de la finance, si importantes soient-elles, ni des postures et gesticulations de quelques-uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et collective des besoins profonds de l'homme et de l'engagement de tous. Voilà. Il s'agit d'élever le débat à la question...
Pourquoi ?
Voilà. Pourquoi ? Pour qui ? Pour quel homme ? Pour quelle société nous voulons bâtir ensemble ? Voilà. Donc maintenant, nous sommes dans cette période intermédiaire, hein, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Je pense que c'est le moment de relire cette lettre dans son ensemble, parce que ça donne justement cette vision, cette réflexion globale. Et puis, les évêques de France nous y aident aussi, puisqu'ils ont publié un communiqué tout récemment, hein, un communiqué de presse pour l'entre-deux-tours, où ils redisent, hein, ils ne disent rien de nouveau, ils redisent simplement les fondamentaux de réflexion qu'on trouve dans cette lettre, qu'on trouve dans le document qu'ils ont sorti en juin de l'année dernière. D'abord, ils disent quelque chose sur le rôle de l'Église catholique dans la réflexion. Hein, c'est la lumière de l'Évangile et de l'enseignement social sur lequel s'appuie l'Église catholique pour nous aider à réfléchir. Et puis, ils disent aussi, le processus démocratique ne se limite pas à ce scrutin présidentiel, mais il se prolonge dans les législatives et puis même dans les sénatoriales qui auront lieu en septembre. Et puis, ils rappellent donc ces fondamentaux. Qu'ils disent en quelques termes, notre démocratie ne doit pas se transformer en société de violence, donc refus de la violence et donc ouverture au débat et à l'autre. Quelle société voulons-nous construire, hein, donc où l'importance de l'être humain et l'importance de l'être humain plus que le processus économique et technologique, l'importance du respect des plus faibles. Le pacte éducatif, hein, entre les familles et l'école, l'importance de l'éducation, et que la recherche du bien commun doit aussi se manifester à travers des solidarités efficaces avec tous. À propos des migrants, c'est un constat, pas un combat. Les migrants sont là. Certains pays accueillent des millions de réfugiés. Comment notre pays pourrait-il reculer dans la perspective d'accueillir et d'intégrer quelques dizaines de milliers de victimes ? Et puis, la solidarité doit aussi s'exercer au niveau européen. Et ils prennent position très claire, hein, pour que la France s'engage dans une Europe et que l'Europe s'engage dans cette politique d'accueil. C'est une véritable adhésion des peuples d'Europe au projet européen qu'il faut favoriser. Voilà. Bien entendu, ils ne disent pas pour qui voter, ils donnent des repères pour que chacun puisse réfléchir et faire le choix qui soit non pas son choix de bien-être personnel, mais un choix pour le bien commun et de la société française.
Merci beaucoup Didier. Vous retrouverez l'ensemble de ces discussions sur l'ensemble des chapitres sur la page du site diocésain, diocèse-chartres.com. Didier Gougis, à bientôt dans Libre Propos.
À bientôt.
Et à bientôt sur Radio Grand Ciel.